Acte des Apôtres, chapitre 10. Vision de Corneille, versets 1 à 8.
Lecture de la parole. Or, à Césarée, un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique, pieux et craignant Dieu avec toute sa maison, faisant beaucoup d'aumônes au peuple et priant Dieu continuellement, vit clairement en vision, environ vers la 9e heure du jour, un ange de Dieu entrant auprès de lui et lui disant « Corneille !» Et, fixant les yeux sur lui, et étant tout effrayé, il dit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et il lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées pour mémorial devant Dieu. Et maintenant, envoie des hommes à Joppé, et fait venir Simon, qui est surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, qui a sa maison au bord de la mer. Et quand l'ange qui lui parlait s'en fut allé, Corneille, ayant appelé deux de ses domestiques et un soldat pieux d'entre ceux qui se tenaient toujours auprès de lui, et leur ayant tout raconté, les envoya à Joppé.
Lecture de l'étude. Si l'apôtre Paul fut suscité pour annoncer l'évangile aux gentils, c'est Pierre qui devait leur ouvrir la porte du royaume des cieux, comme le Seigneur le lui avait dit en Matthieu 16, verset 19.
Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
En d'autres termes, dans ce chapitre, il les introduit dans la maison de Dieu pour jouir de tous les privilèges du christianisme, comme il l'avait fait pour les Juifs convertis et les Samaritains, chapitre 8. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurion d'une cohorte appelée Italique. Note en bas de page, la cohorte, unité de l'armée romaine, se divisait en 10 centuries, commandées chacune par un centurion. Pieux, craignant Dieu avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement, versets 1 et 2. Beau témoignage rendu à cet homme, un gentil, sans doute un romain, puisqu'il était officier dans l'armée. Trois choses le caractérisaient. Premièrement, sa piété personnelle. Il avait enseigné ceux qui appartenaient à sa maison à marcher dans la même voie que lui. Son influence s'était étendue à ses soldats, parmi lesquels il y en avait de pieux. Deuxièmement, sa générosité. Il faisait beaucoup d'aumônes, évidemment, au peuple juif, qu'il honorait en sa qualité de peuple de Dieu, en contraste avec les gentils qui le méprisaient. Troisièmement, son esprit de prière. Tout ce qui est dit de Corneille exprime la vraie piété à laquelle Dieu voulait répondre en lui faisant connaître comment il s'était révélé en grâce à tous les hommes dans la personne du Seigneur Jésus et par son œuvre à la croix. Vers la 9e heure du jour, 3 heures de l'après-midi, Corneille vit clairement en vision un ange de Dieu entrant auprès de lui et lui disant « Corneille !» Et, fixant les yeux sur lui et étant tout effrayé, il dit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et il lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées pour mémorial devant Dieu. Et maintenant, envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. » Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, qui a sa maison au bord de la mer, versets 3 à 6. L'ange partit. Corneille appela deux de ses domestiques et un soldat pieux d'entre ceux qui se tenaient toujours auprès de lui, et leur ayant tout raconté, les envoya à Joppé, versets 7 et 8. Ces deux domestiques et ce soldat étaient sûrement en communion de pensées avec leur maître. Cet étranger à Israël, et jusqu'ici au christianisme, qui avait si bien compris sa responsabilité vis-à-vis de sa maison, est un bel exemple à suivre par tous les chrétiens, car, avec une connaissance plus grande des pensées de Dieu à tous égards, beaucoup de maisons ne portent pas les caractères de piété de celles de Corneille. Par les moyens que Dieu emploie vis-à-vis de Corneille, on voit l'importance de l'enseignement qu'il veut lui donner. Il lui envoie un ange, non pour l'instruire, mais pour lui donner l'adresse exacte à laquelle il trouvera l'homme qui lui parlera de sa part. Le Seigneur n'a pas donné aux anges des dons pour son Église, mais aux hommes, parmi ceux auxquels il a révélé la grâce merveilleuse dont ils sont les objets et ses conseils éternels à leur égard, qui les placent au-dessus des anges. C'est pourquoi les anges désirent regarder de près dans les bénédictions merveilleuses accordées aux hommes. Voir 1 Pierre 1, verset 12.
Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils administraient ces choses qui vous sont maintenant annoncées par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle par l'Esprit Saint envoyé du ciel, dans lesquels des anges désirent de regarder de près.
Alors que, pour ceux d'entre eux qui ont péché, il n'y a point de salut. Car certes, il ne prend pas les anges, mais la semence d'Abraham, Hébreux 2, verset 16, c'est-à-dire qu'il ne sauve pas les anges, mais les croyants parmi les hommes. Des anges, il est dit, ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs, envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Hébreux 1, verset 14. Dans le cas de Corneille, nous voyons un ange qui servit en sa faveur. Combien la grâce de Dieu est merveilleuse envers les pécheurs. Elle s'est manifestée dans sa plénitude, non en employant des anges pour nous servir, mais en ce que Dieu envoya du ciel, son propre Fils, pour nous sauver par sa mort sur la croix. Vision de Pierre, versets 9 à 24.
Lecture de la parole. Or, le lendemain, comme ils marchaient et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit pour prier vers la sixième heure. Et il eut très faim et voulut manger. Et comme on lui apprêtait à manger, il lui survint une extase. Et il voit le ciel ouvert et un vase descendant comme une grande toile liée par les quatre coins, et dévalé en terre, dans laquelle il y avait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, et les oiseaux du ciel. Et une voix lui fut adressée, disant, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non point, Seigneur, car jamais je n'ai rien mangé qui soit impur ou immonde. » Et une voix lui fut adressée encore pour la seconde fois, disant, « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le tiens pas pour impur. » Et cela eut lieu par trois fois, et le vase fut aussitôt élevé au ciel. Et comme Pierre était en perplexité en lui-même à l'égard de ce qu'était cette vision qu'il avait vue, voici aussi les hommes envoyés de la part de Corneille, s'étant enquis de la maison de Simon, se tenaient à la porte. Et ayant appelé, ils demandèrent si Simon, surnommé Pierre, logeait là. Et comme Pierre méditait sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voilà, trois hommes te cherchent, mais lève-toi et descends, et va avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les ai envoyés. » Et Pierre, étant descendu vers les hommes, dit, « Voici, moi, je suis celui que vous cherchez. » Quelle est la cause pour laquelle vous êtes venus? Et ils dirent, Corneille, centurion, homme juste et craignant Dieu, et qui a un bon témoignage de toute la nation des Juifs, a été averti divinement par un saint ange de te faire revenir dans sa maison et d'entendre des paroles de ta part. Les ayant donc fait entrer, il les logea, et le lendemain, se levant, il s'en alla avec eux. Et quelques-uns des frères de Jopé allèrent avec lui. Et le lendemain, ils entrèrent à Césarée. Et Corneille les attendait, ayant assemblé ses parents et ses intimes amis.
Lecture de l'étude. Les serviteurs de Corneille se mirent en route pour Jopé. Ils avaient à franchir une distance d'au moins 50 kilomètres, le long de la mer. Mais pour qu'ils trouvassent Pierre disposé à les suivre, il lui fallait une préparation spéciale de la part du Seigneur, car, lors même que les Samaritains avaient été convertis, baptisés, et qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, les chrétiens juifs ne comprenaient pas encore que les privilèges du christianisme appartenaient aux gentils aussi bien qu'à eux. Comme les messagers de Corneille approchaient de la ville, Pierre était monté sur le toit pour prier vers la 6e heure, midi. Il eut faim, et pendant qu'on lui préparait à manger, il eut une extase. Il voit le ciel ouvert, et un vase descendant comme une grande toile liée par les 4 coins et dévalée en terre, dans laquelle il y avait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui fut adressée, disant « Lève-toi, Pierre, tu et mange. » Et Pierre dit « Non point, Seigneur, car jamais je n'ai rien mangé qui soit impur ou immonde. » Et une voix lui fut adressée encore pour la seconde fois, disant « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le tiens pas pour impur. » Et cela eut lieu par 3 fois. Et le vase fut aussitôt élevé au ciel, versets 11 à 16. Il est facile de comprendre ce que le Seigneur enseignait à Pierre. Sous la loi, les gentils étaient impurs. Les Juifs ne devaient entretenir aucune relation avec eux. Mais maintenant que l'épreuve de l'homme avait manifesté l'impureté des Juifs aussi, quant à leur nature, leur culpabilité, il n'y avait plus lieu de maintenir la différence entre ces deux races. Dieu voulait faire grâce à tous en vertu de la mort de Christ, dans laquelle avaient disparu, sous le jugement de Dieu, ce qu'avaient été juifs et gentils. Par le même moyen, les uns et les autres étaient purifiés moyennant la foi. C'est pourquoi la voix, s'adressant à Pierre, lui dit « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le tiens pas pour impur. » On comprend la perplexité de Pierre quand il entendit le Seigneur lui dire par 3 fois « Tu et mange !» Lui qui, en bon juif, avait observé les ordonnances de la loi à cet égard en Lévitique 11 et Deutéronome 14. Mais il ne tarda pas à saisir le secret de cette vision. Comme Pierre était en perplexité en lui-même à l'égard de ce qu'était cette vision qu'il avait vue, voici aussi les hommes envoyés de la part de Corneille se tenaient à la porte. Et, ayant appelé, ils demandèrent si Simon, surnommé Pierre, logeait là. Et comme Pierre méditait sur la vision, l'Esprit lui dit « Voilà, 3 hommes te cherchent, mais lève-toi et descends, et va avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les ai envoyés. » Et Pierre, étant descendu vers les hommes, dit « Voici, moi je suis celui que vous cherchez. Quelle est la cause pour laquelle vous êtes venu ?» Versets 17 à 21. Quelle condescendance de la part du Seigneur d'aplanir ainsi toutes les difficultés pour l'accomplissement de son œuvre d'amour. Quelle satisfaction pour le cœur de Dieu de faire connaître à ce pieux Corneille son fils Jésus, le Sauveur, venu pour abolir tous ses péchés et le rendre participant à des bénédictions qui surpassaient tout ce que pouvait espérer un juif sous la loi. Ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Corneille était un de ceux-là. Il allait bientôt l'apprendre. Les hommes répondirent à Pierre, « Corneille, centurion, homme juste et craignant Dieu, et qui a un bon témoignage de toute la nation des Juifs, a été averti divinement par un saint ange de te faire revenir dans sa maison et d'entendre des paroles de ta part. » Verset 22. Averti par l'Esprit Saint, Pierre fit entrer les messagers, les logea et partit avec eux le lendemain. Il se fit accompagner de quelques frères de Joppé pour qu'ils fussent témoins de ce qui allait se passer. Les envoyés de Corneille lui rendent le même témoignage que l'Esprit de Dieu au verset 2. Fourni par des témoins journaliers de sa vie, cette attestation a un grand prix, car il arrive souvent que tout le bien que peuvent dire d'un chrétien ou de ses enfants des personnes qui ne vivent pas dans leur intimité ne s'accordent pas en tout point avec le témoignage de ceux qui observent leur manière d'agir dans leur vie de famille. Il faut veiller, dès le jeune âge, à ce que notre marche intime, dans la maison, dans nos rapports avec les nôtres, manifeste la même crainte de Dieu, la même piété que lorsque nous nous savons observer par autrui. Pour cela, il faut vivre dans le sentiment de la présence de Dieu, qui voit tout et partout. Arrivés à Césarée, ils trouvèrent Corneille, qui avait assemblé ses parents et ses intimes amis. Non seulement il avait enseigné à sa maison la connaissance du vrai Dieu, mais il en avait entretenu son entourage. Tout était préparé pour qu'un grand nombre apprisse ce qu'il ne connaissait pas, savoir l'Évangile qui annonce le Sauveur et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Arrivée de Pierre chez Corneille, versets 25 à 33.
Lecture de la parole. Et comme il arrivait que Pierre entrait, Corneille, allant au-devant de lui, se jeta à ses pieds et lui rendit hommage. Mais Pierre le releva, disant, « Lève-toi, et moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva plusieurs personnes assemblées. Et il leur dit, « Vous savez, vous, que c'est une chose illicite pour un juif que de se lier avec un étranger ou d'aller à lui. » Et Dieu m'a montré à moi à n'appeler aucun homme impur ou immonde. C'est pourquoi aussi, lorsque vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire de difficulté. Je vous demande donc pour quel sujet vous m'avez fait venir. » Et Corneille dit, « Il y a 4 jours que j'étais en jeûne jusqu'à cette heure-ci, et à la 9e heure je priais dans ma maison. Et voici un homme se tint devant moi, dans un vêtement éclatant, et dit, « Corneille, ta prière est exaucée et tes aumônes ont été rappelées en mémoire devant Dieu. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon qui est surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, corroyeur, au bord de la mer. Et lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai donc aussitôt t'envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous présents devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné de Dieu. »
Lecture de l'étude. Et comme il arrivait que Pierre entrait, Corneille, allant au-devant de lui, se jeta à ses pieds et lui rendit hommage. Mais Pierre le releva, disant, « Lève-toi, et moi aussi je suis un homme. » Verset 25-26. Corneille pensait à la supériorité de celui que le Seigneur lui envoyait, et voulait l'honorer dignement. La réponse de Pierre signifiait non seulement qu'il n'était pas un être céleste ou divin, mais qu'il était aussi un homme comme Corneille, son égal devant Dieu comme pécheur, et par grâce comme un racheté. Pierre exposa aux personnes assemblées comment il avait été conduit à venir à eux. « Vous savez, vous, leur dit-il, que c'est une chose illicite pour un juif que de se lier avec un étranger ou d'aller à lui. Et Dieu m'a montré à moi à n'appeler aucun homme impur ou immonde. C'est pourquoi aussi, lorsque vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire de difficulté. Je vous demande donc pour quel sujet vous m'avez fait venir. » Verset 28-29. Corneille lui fit le récit de l'apparition de l'ange sous la forme d'un homme qui se tenait devant lui, dans un vêtement éclatant, et lui dit, « Corneille, ta prière est exaucée, et tes aumônes ont été rappelées en mémoire devant Dieu. » Verset 31. Corneille exposait dans sa prière des besoins que la grâce de Dieu pouvait satisfaire, et auxquels la connaissance qu'il avait du Dieu des Juifs ne répondait pas. C'est pourquoi l'ange lui dit, « Ta prière est exaucée. » On voit ainsi une prière a sa réponse lors même que l'exaucement n'est pas encore connu. Et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que que nous avons les choses que nous lui avons demandées. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous savons que nous les avons, mais Dieu les donnera quand il le jugera à propos. Corneille vit exaucer sa prière le jour même. L'ange lui indique simplement qu'il instruira dans la vérité. Lorsqu'il sera venu, lui dit-il, il te parlera. J'ai donc aussitôt envoyé vers toi, dit Corneille à Pierre, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous présents devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné de Dieu, verset 32-33. Les résultats d'une réunion pareille sont évidents. Il y avait là un homme envoyé de Dieu pour parler, et des personnes assemblées par Dieu se tenant devant Dieu pour entendre ce qu'il avait à leur dire. Si nous nous réunissions toujours dans le même esprit que ces personnes pour écouter la parole de Dieu, quelle bénédiction nous en recevrions. Ce n'est pas un apôtre, mais quelqu'un de plus grand que Pierre qui nous réunit autour de lui. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20, dit le Seigneur. Nous possédons les écrits des apôtres inspirés, la parole de Dieu. Chaque fois que nous l'entendons ou que nous la lisons, nous devons nous dire « Voilà ce que Dieu te dit » et le recevoir avec le sérieux qui convient devant une autorité pareille pour lui obéir et retirer toute la bénédiction éternelle qu'elle apporte. Prédication de Pierre, versets 34 à 48.
Lecture de la parole. Et Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je comprends que Dieu ne fait pas exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Vous connaissez la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Lui est Seigneur de tous, ce qui a été annoncé par toute la Judée, en commençant par la Galilée, après le baptême que Jean a prêché, Jésus, qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites au pays des Juifs et à Jérusalem, lequel aussi ils ont fait mourir, le pendant au bois. Celui-ci, Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et l'a donné pour être manifesté, non à tout le peuple, mais à des témoins qui avaient été auparavant choisis de Dieu, savoir à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il eût été ressuscité d'entre les morts. Et il nous a commandé de prêcher au peuple, et d'attester que c'est lui qui est établi de Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent témoignage que, par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole, et les fidèles de la circoncision, tous ceux qui étaient venus avec Pierre s'étonnèrent de ce que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les nations, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre répondit, « Quelqu'un pourrait-il refuser l'eau, afin que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit-Saint comme nous-mêmes ? » Et il commanda qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Alors ils le prièrent de demeurer là quelques jours.
Lecture de l'étude. Et Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je comprends que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Verset 34-35. Dieu veut des réalités. Il ne suffisait pas de dire, « Nous avons Abraham pour père. » Luc 3, verset 8. Il faut produire de bons fruits, comme le disait Jean le baptiseur aux Juifs. Si Dieu envoyait au milieu des nations, cela lui était agréable. Il en trouvait si peu chez son peuple terrestre. Ce Dieu qui ne fait pas exception de personne a envoyé sa parole, dit Pierre, annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui est Seigneur de tous, non seulement des Juifs, mais aussi des gentils. Cette bonne nouvelle a été annoncée par toute la Judée, en commençant par la Galilée, après le baptême que Jean a prêché, verset 36-37. Jean prêchait qu'il fallait se repentir parce que le royaume de Dieu allait venir. Établi en gloire, les pécheurs y seraient détruits. C'est ce que veut dire que tout arbre qui ne portait pas de bons fruits serait coupé et jeté au feu. Tous ceux qui se repentaient étaient baptisés et attendaient le Seigneur dont Jean annonçait la venue. Lorsque Jésus vint, il annonça la bonne nouvelle du salut que recevaient ceux qui s'étaient repentis. Il dit en Luc 4, verset 18-19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. » Mais le Seigneur n'a pas seulement prêché. Pierre dit, Jésus, qui était de Nazareth, Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, car Dieu était avec lui. Verset 38. Grâce merveilleuse de la part de Dieu de venir dans ce monde dans la personne de son Fils, pour délivrer l'homme de la puissance de Satan auquel il s'était volontairement asservi. Pierre dit au nom des apôtres, nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites au pays des Juifs et à Jérusalem, verset 39. Corneille et ses invités durent accepter ces paroles avec une pleine certitude. Et celui qui vint accomplir cette œuvre, les hommes l'ont fait mourir le pendant au bois. Alors Dieu intervint afin qu'on publiât dans le monde entier les résultats de l'œuvre de son Fils. Celui-ci, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et l'a donné pour être manifesté, non à tout le peuple, mais à des témoins qui avaient été auparavant choisis de Dieu, savoir à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il eut été ressuscité d'entre les morts, verset 40-41. Le témoignage des apôtres avait une importance que nous ne comprenons pas assez, nous qui avons la parole de Dieu. On le voit par le fait qu'un ange vient vers Corneille pour le mettre en relation avec un de ses témoins des œuvres de Jésus et de sa résurrection, sur laquelle repose la prédication de la grâce. Pierre rapporte que le peuple ne vit pas le Seigneur ressuscité. En effet, les Juifs refusèrent de croire en lui lorsqu'il était au milieu d'eux. La grâce leur était bien offerte après sa résurrection, mais pour la foi en un Christ ressuscité et glorifié, invisible, tandis que ceux qui avaient cru en lui lorsque le peuple le rejetait le virent. À eux, il a été commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi de Dieu, juge des vivants et des morts. Pierre ne termine pas son discours en présentant le jugement qu'exercera celui que les hommes ont fait mourir. Il invoque un autre témoignage qui a précédé le sien, celui des prophètes. Tous les prophètes lui rendent témoignage que, par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés, verset 43. Merveilleuse déclaration. Aussi, comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole, verset 44. Jusque-là, Corneille et les siens possédaient la vie divine comme tous les croyants qui ont précédé la mort du Seigneur, parce qu'ils croyaient Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, c'est-à-dire chrétien, pour faire partie du royaume des cieux, il fallait posséder la rémission des péchés en croyant au Seigneur Jésus mort, ressuscité et glorifié. Cette connaissance manquait à la foi de Corneille et des siens. Dès qu'ils saisirent la déclaration de Pierre, Dieu les scella du Saint-Esprit et les reconnut comme ses enfants. Ils reçurent l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père » Romains 8, verset 15. Dès lors, ils possédaient en abondance la vie des brebis du Seigneur. « Je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance » Jean 10, verset 10. Quel étonnement pour Pierre et les frères qui l'avaient accompagné en voyant l'Esprit Saint se répandre aussi sur les gentils, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Verset 45. Il n'y avait plus de différence entre juifs et gentils croyants, tous amenés à Dieu par le même moyen. Tout ce qui les séparait avait pris fin dans la mort de Christ, qui a détruit le mur mitoyen de clôture et les a réconciliés, tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué par elle l'inimitié. Éphésiens 2, versets 11 à 20.
C'est pourquoi, souvenez-vous que vous, autrefois les nations dans la chair, qui étiez appelées incirconcision par ce qui est appelé la circoncision, faites de main dans la chair, vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël, et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en ordonnances, afin qu'il créa les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau, en faisant la paix, et qu'il les réconcilia tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué par elle l'inimitié. Et il est venu, et a annoncé la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin, et la bonne nouvelle de la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père par un seul esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin.
Pierre comprit mieux encore que Dieu ne faisait pas exception de personne, puisqu'il les amenait tous aux mêmes bénédictions du christianisme. Malgré la réception du Saint-Esprit, il fallait encore le baptême qui les introduisait dans la maison de Dieu. Alors Pierre répondit, « Quelqu'un pourrait-il refuser l'eau, afin que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit-Saint comme nous-mêmes ? » Et il commanda qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Alors ils le prièrent de demeurer là quelques jours, verset 47-48. Nous avons vu, au chapitre 8, que le Saint-Esprit ne venait que sur ceux qui étaient baptisés après avoir cru. C'est l'ordre indiqué par Pierre au chapitre 2, verset 38.
Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »
Ici, le Seigneur voulut que le Saint-Esprit vînt sur eux avant le baptême, pour montrer que les croyants gentils avaient la même part que les croyants juifs aux conséquences de l'œuvre de Christ. Sans cela, Pierre eût pu hésiter de les baptiser, malgré la vision par laquelle Dieu lui avait montré qu'il purifiait aussi bien les uns que les autres. Maintenant, une assemblée chrétienne pouvait se former à Césarée, où Philippe était déjà venu après sa rencontre avec l'eunuque d'Éthiopie. Chapitre 8, verset 40.
Et Philippe fut trouvé à Azote. Et en passant au travers du pays, il évangélisa toutes les villes jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Césarée.
Nous savons qu'en effet, il y en eut une. Paul y passa en allant à Tarse. Chapitre 9, verset 30.
Et les frères l'ayant su le menèrent à Césarée et l'envoyèrent à Tarse.
Il y débarqua en venant d'Éphèse. Chapitre 18, verset 22.
Et ayant abordé à Césarée, il monta et salua l'assemblée et descendit à Antioche.
Des disciples en vinrent avec Paul à Jérusalem lors de son dernier voyage dans cette ville. Chapitre 21, versets 15 et 16.
Et après ces jours, ayant rassemblé nos effets, nous montâmes à Jérusalem. Et quelques-uns aussi des disciples de Césarée vinrent avec nous, amenant un certain Mnason, cypriote, un ancien disciple chez qui nous devions loger.
Et c'est là que le chiliarque envoya Paul pour le soustraire aux embûches des Juifs de Jérusalem. Il y demeura 2 ans avant d'aller à Rome. Chapitre 23 à 25. Pendant ce temps, les chrétiens de Césarée purent profiter sans doute du ministère de l'apôtre, puisqu'ils jouissaient d'une certaine liberté et qu'on n'empêchait aucun des siens de le servir. Chapitre 24, verset 23.
Ordonnant au centurion que Paul fût gardé, et qu'il eut quelque liberté et qu'on n'empêcha aucun des siens de le servir.
Mais la parole ne dit rien de l'activité de Paul durant les 2 ans qu'il passa dans cette ville.